Chapitre 3. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Faisaient Mickey et Valentine, curieuses, allongeant leur cou derrière Juliette, qui tirait de l'enveloppe un billet fort petit, chiffré d'argent. Vous le saurez demain, j'ai aussi ma surprise pour vous, fit Juliette lentement, quand elle eut, de ses yeux qui se troublaient un peu, lu deux lignes. Elle mit le billet dans sa poche et se leva. À quoi bon la tranquillité des bois si l'on y promène un cœur agité, si l'on va d'arbre en arbre, les yeux baissés, le front lourd d'irrésolution et de chagrin? C'est un signe, répétait Juliette passionnément, c'est un signe. Et elle cherchait à produire en elle-même la conviction que ce signe était un ordre, la volonté de Dieu se manifestant à son égard. Depuis qu'elle avait entendu André Humbert à la Touffette, un certain soir, elle avait décidé qu'elle aussi ferait, non sa volonté propre, mais la volonté de Dieu. « Seulement, pensait-elle, il est impossible que Dieu veuille que je gâche ma vie. » Le signe, c'était la coïncidence de son livret retrouvé et de cette lettre qui disait « Envoyez-moi votre petite merveille, envoyez-la au plus vite, car ma nièce Marie va me quitter. » « Dites-lui que je serai prête à la recevoir la semaine prochaine. » Le chemin ne s'ouvrait-il pas de lui-même, et l'impulsion pour s'y jeter n'était-elle pas impérieuse, plus que cela, extérieure, indépendante de tout choix personnel? Je ne cherchais plus mon livret, je ne cherchais pas les offres de Madame Dumorel, je n'ai pas remué un doigt, et tout s'est fait et... « Oui, je crois, » se redisait-elle avec insistance, « oui, je suis sûre qu'il m'est permis de partir. Peut-être même que, sans moi, obligée de réfléchir et de compter, elles deviendront plus raisonnables. » Puis elle pensa au trousseau de Fanchonne, ce pauvre trousseau qu'il faudrait tirer presque de rien. Elle pensa aux vêtements d'hiver et se dit que ses sœurs, sans les représentations de tante Miche, feraient certainement la folie d'acheter des robes neuves, qu'elles auraient ensuite toutes les peines du monde à payer. Et les mouchoirs de poche? Il n'était pas de créatures au monde plus sujettes à égarer leurs mouchoirs de poche. Dans 6 mois, la vigilance de Juliette manquant, elles ne posséderaient plus un seul mouchoir. Car elles en faisaient des torchons aussitôt qu'ils y montraient une éraillure, ou bien elles jouaient à la balle avec dans le jardin. Elles les lavaient à la fontaine, puis elles les séchaient sur la haie et laissaient le vent les leur prendre. Chacun sait, se disait Juliette soucieuse, combien il est difficile, même aux personnes raisonnables, de ne jamais perdre un mouchoir. Si je ne surveillais Mickey, elle perdrait le sien chaque jour dans les sacs de timbre, des sacs qu'on expédie à tous les points de l'univers. Et le jardin? Qui donc y fera pousser des moissons de laitue l'été prochain? Car il est excellent pour la laitue, notre jardin. Ce ne sera toujours pas ma pauvre maman qui a mal au dos si elle se baisse. Oh, les pauvres chères, comment leur dirai-je que je vais les quitter? Elles ont si bon cœur, elles me donneront leurs affaires, Bricotte m'offrira ton tablier de soie et maman me mettra ses chemises dans la malle pour que j'en aie au moins une douzaine et demie. Et puis, nous verserons toutes ensemble des torrents de larmes. Juliette était seule, à la lisière du petit bois qu'elle venait de traverser. Elle s'assit sur une pierre, parmi les grands troncs rugueux, où s'enroulait le lierre aux brunes nervures. Elle en détacha un petit rameau de 3 feuilles qu'elle se mit à lisser de son doigt pour sentir leur fraîcheur, leur tissu ferme et poli. En même temps, elle cherchait à trier ses idées pour les mettre dans une balance juste. Mais ses idées suivirent ses yeux vers un endroit découvert, en face de sa cachette, où le petit mur écoulé ouvrait un passage dans la prairie. Des vaches paissaient là-bas le regain court, sous la garde d'un petit bovis qui errait, une longue baguette à la main, et qui, parfois, pris d'un zèle subit, s'élançait à toutes jambes vers le bout du pré, les 2 bras en l'air. Sur le mur, Antoine et André Humbert étaient assis côte à côte, dans la douceur du plein soleil, qu'à peine tachait d'ombre un grand alisier clair et troué comme un éventail de dentelle. Cette lumière rendait éblouissante une feuille de papier, une lettre qu'ils ouvraient ensemble et qu'ils lisaient penchés l'un vers l'autre. À leur vue, Juliette, abritée, elle, par l'enchevêtrement des noisetiers et des vernes, Juliette eut le cœur serré d'un étrange spasme de jalousie. Ils étaient tous l'un pour l'autre. Elle ne leur manquerait guère quand elle serait partie. André avait été si bon pour elle, bon comme un frère aîné, l'aîné de beaucoup par l'expérience. Elle se voyait, dans la petite chambre qu'elle aurait là-bas, écrivant à André le soir pour lui raconter ses cas de conscience. Quand on n'est ni frère et sœur, ni même cousin, les lois stupides et nécessaires des convenances ne permettent guère qu'on s'écrive. Mais à Antoine, écrirait-elle ? Oh, pour cela, non, jamais ! S'il allait croire, s'il allait deviner ? Rien, je n'aurai plus rien ! S'écria Juliette, tout à coup pâle, les yeux élargis d'angoisse, les mains pressées l'une contre l'autre. Je n'aurai plus ces heures où nous parlions ensemble, des heures différentes de tout le reste de la vie. Il dit que je sais le comprendre, et c'est vrai, mais il m'oubliera. Pourquoi Madame Jacquier met-elle tant d'obligeance à me faire disparaître ? Les autres gens voient-ils des choses que je ne vois pas ? Elle se jeta sur le gazon, allongée parmi les petites fleurs timides de la potentille, du serpolet brun que ses doigts froissaient, et dont elle sentit le pénétrant parfum quand elle porta ses mains à son visage couvert de larmes chaudes. Oh, quelle misère de son cœur ! Elle savait mieux à présent que son devoir était de rester, mais c'était à cause d'Antoine qu'il lui paraissait impossible de partir. Non pas à cause de sa pauvre maman si tendre, non pas à cause de ses cigales de sœur qui avaient besoin d'elle pourtant. Même contre sa conscience, elle aurait pu les quitter. Avec un brisement, avec des larmes, mais enfin, elle aurait pu les quitter. Lui, c'était l'essence de la vie. Peut-être appelle-t-on cela aimer dans une langue pauvre. Et Juliette, essuyant ses larmes avec le bout de ses doigts parfumés de serpolet, songeait à Fanchonne qui aimait son cousinet. Était-ce le même mot pour la même chose ? Dédaigneusement, elle souriait. « Mon âme s'est fondue en lui, pensait-elle. Il est moi. C'est pour cela qu'il me comprend et que je le comprends. André est au-dessus de nous, il monte seul. Nous montons ensemble, nous deux, plus bas dans le chemin. Nous n'allons pas vite. Oh, ma vie, tout avec lui, les mêmes progrès, les mêmes peines. » Et puis, avec un effort pour redevenir froide et raisonnable, elle se disait « Jamais sa belle-mère ne voudra de moi. Je ferai mieux de partir. » Ensuite, la pensée revenait « Mais si mon devoir est de rester ?» Et alors, une joie chaude lui remplissait le cœur et sa conscience s'épanouissait dans cette facilité, dans cette soudaine métamorphose du devoir. Antoine allait replier la lettre d'une main qui aurait voulu plutôt la froisser, la déchirer, la jeter par lambeaux dans les buissons d'épines. André, le menton dans la main, regardait fixement devant lui. Ils avaient lu ensemble cette phrase et elle leur labourait l'esprit comme un harpon planté. Malgré le talent que nous nous plaisons à lui reconnaître, M. André Humbert nous semble peu apte à remplir le poste que notre jeune professeur actuel voudrait lui céder. Dans les classes inférieures, formées d'élèves turbulents, souvent peu respectueux, il est nécessaire de tenir les rênes à deux mains. Antoine brûlait ces mots ineptement soulignés, d'un œil fulgurant de mépris. Et l'imbécile s'admire probablement d'avoir inventé cette rédaction délicieuse. Il se dit « comme je tourne agréablement les choses pénibles ». N'appuie pas, dit André. « Voilà que je deviens idiot à mon tour. C'est contagieux. Je le fais mal. Mais comment veux-tu que je ne dise rien ? Pour toi, c'est une blessure, et c'est moi qui t'ai livré entre leurs mains. » « Et puis, fit André, tu es déçu. Va, pauvre ami, ne le nie pas. Tu croyais qu'ils accepteraient. Je le croyais également. Il paraît que nous nous sommes fait illusion sur mes aptitudes. » Tout à coup, il laissa tomber la tête sur son bras qu'il appuyait à l'épaule d'Antoine. « N'être bon à rien, c'est dur. »« André !» s'écria son ami avec indignation. « Je te défends de parler ainsi. Tu es 10 fois plus artiste que moi. Tu as une volonté qui franchira toutes les barricades. Si je n'étais pas un abominable égoïste, je me réjouirais de ce refus. Tu n'es pas fait pour t'avachir dans ces classes de fillettes et d'apprentis. » Le cours professionnel, les leçons de style te donneront les coups des franches et des élèves qui sauront apprécier. Non, vois-tu, cette lettre me sauve d'une grande lâcheté que j'allais faire. Il lui était si reconnaissant à cette lettre qu'il la jeta au pied du mur et d'un coup de talon la troua. « Si encore, murmura-t-il, ils alléguaient que la tâche est trop lourde pour un seul, je dirais, ils ont raison, car j'ai été une vraie brute, un négrier, un exploiteur, tiens, pire que ton cousin Vitalis, quand j'ai pu songer un instant à t'écraser d'un tel fardeau. Mais donner cela comme motif, c'est trop stupide, et c'est trop cruel. » Il prit tendrement le bras mutilé de son ami, y posa la main et se tut. Comme un homme que sa mère console. Il leur eût fallu une mère à ces pauvres enfants, trop virils déjà et trop fiers pour pleurer. Il leur eût fallu une mère pour dire ces mots de tendresse et de pitié qui coulent comme une huile divine, ces mots qu'un homme ne sait pas prononcer, fût-ce même pour consoler son ami. Il faut que la mère pleure pour son fils, la sœur pour son frère, et ses larmes qu'il ne verse pas lui-même, plus abondantes et plus douces que ne seraient les siennes, il en éprouve le mystérieux pouvoir d'apaisement. La pitié de notre homme, dans laquelle il y a toujours quelque mépris pour sa faiblesse, ne peut que le blesser ou l'accabler. La pitié de sa mère le relève meilleur. Antoine sentait bien qu'à chaque phrase qu'il essayait de dire, il enfonçait l'aiguillon. « N'appuie pas !» lui avait dit André. Il se taisait donc, mais tous deux, en cet instant, pensaient à Juliette, qui, un soir, par ses larmes, avait soulagé et détendu leur tristesse trop contenue, et qui s'était rendue chère à eux pour toujours en cette heure. Antoine avait le visage tourné vers la lisière du petit bois, vers les grands hêtres qui cherchaient le soleil, balançant de haut en bas leurs branches étendues, où les feuilles cuivrées et rondes luisaient comme des monnaies. Juliette était bien cachée derrière le rideau des petits hêtres qui s'élançaient de la souche des grands et s'enchevêtraient avec toutes sortes de folles pousses avec les épilobes des fleuris. Et pourtant, Antoine semblait deviner sa présence car il se mit à penser à elle passionnément. Il se dit qu'elle était le second chapitre de sa vie, un chapitre joli dans ses premières pages, clair, ensoleillé, plein de rire, puis s'obscurcissant d'une grande ombre. Et dans cette ombre, son cœur luttait et souffrait. Mais l'obscurité était moins épaisse, moins accablante qu'autrefois, avant Juliette, quand son père morbide, toujours torturé, et la belle-mère qu'il détestait, était seule, assise avec lui dans la vie quotidienne, monotone et grise. Juliette, quelle différence, quel intérêt nouveau, quel réveil après une étouffante torpeur! Cependant, il serait parti léger si la lettre, au lieu d'un nom brutal, avait dit oui. Il aurait demandé à Juliette la permission de lui écrire. Le lien léger n'aurait pas été rompu, au contraire. Cependant, qui sait ? L'absence a des doigts habiles à défaire les réseaux. Antoine se leva, comme poussé par une inquiétude. « Je retourne là-bas, » fit-il. « Viens-tu ? » « Non, » dit André, « pas encore. » Cependant, il se leva aussi et se mit à marcher le long du petit mur. « Et puis, tu sais, » dit Antoine subitement, lui prenant le bras, « je n'y renonce pas encore. Je trouverai un autre moyen. Je ferai abstraction de ma belle-mère, c'est fort simple. Elle s'arrangera. J'en reviens là. Ma situation est un cercle qu'il faut briser. Pourquoi ne l'as-tu pas brisé plus tôt ?» demanda André d'un ton las. « Ah, pourquoi ?» Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes. « Je me demande, reprit Antoine, par quel inepte raisonnement je m'étais fait à croire que si je gagnais un des prix, je perdrais l'autre. J'obtiendrais mon séjour à Paris sans perdre Juliette. La vie me doit bien cela, elle m'a fait assez grise mine jusqu'ici. « Peut-être, demande puisque tu n'as qu'à demander, » fit André en se détournant. L'amertume de son cœur allait jaillir. Une poignante envie, un cruel retour sur lui-même, allait le rendre dur pour Antoine, cet heureux qui n'avait qu'à demander et qui se plaignait. « Laisse-moi un moment, veux-tu » disait-il, « j'ai à retrouver mon équilibre. » « Mais ne te fais pas de chagrin à mon sujet, » fit Antoine, avec l'égoïsme inconscient de ceux pour qui l'on se dévoue. « Je trouverai un moyen meilleur. » Être refusé par le conseil scolaire, c'était pour André une vive humiliation et de plus, répétait-il, une injustice de parti pris. Il savait que sous sa direction, plus ferme et plus égale que celle d'Antoine, les classes n'auraient pas souffert. Il savait que son ancienne habileté de main, bientôt recouvrée, égalerait dans quelques mois celle d'Antoine. Mais son effort, son courage étaient vains. Avec des circonlocutions, on lui faisait comprendre qu'il ne serait jamais, après tout, qu'un débris. Un instrument est bréché et on voit là pour toute une vie. « Mon Dieu ! Mon Dieu !» Ce cri jaillit tout haut de ses lèvres. Alors il eut peur de s'abandonner, même seul. Il fit un effort, il appuya ses doigts sur ses paupières et resta ainsi une minute, caché derrière sa main, refoulant ses larmes rares qui brûlent les yeux sans couler. C'était pour Antoine qu'il avait souhaité redevenir ce qu'il était autrefois. De la haute étape de soumission où il était parvenu, cessant de penser à lui-même, abdiquant sa vie, il avait voulu donner aux frères de son choix tous ses jours et tout son talent. Mais de cette haute étape, combien il était redescendu! Tout un pan du merveilleux édifice intérieur, sa seule possession, gisait à terre, derrière le triste échafaudage visible, grossier, des circonstances. « Si je n'ai plus cela, si je n'ai plus mon refuge intime de paix, se dit-il, j'ai tout perdu. » Alors tomba sur lui cette tristesse écrasante de l'entière solitude, de toutes les tristesses, celle qui ressemble le plus au désespoir. Plus personne nulle part. Antoine, bien aisément, l'avait quitté dans son chagrin, ce chagrin dont il était le premier auteur, et André se demandait « Est-ce que je l'aime encore ?» Car l'amertume submergeait son affection comme la vague submerge et roule et balance une plante dont les racines se retiennent au bord. Juliette, il s'était dit qu'un jour, Juliette serait pour lui une vraie sœur. Il ne souhaitait que cela. Lui, qui aurait eu besoin de famille plus qu'un autre pour y cacher ses meurtrissures, ne possédait ni mère ni sœur, ses sources gratuites de tendresse, et il sentait maintenant combien les autres sources, celles qu'on acquiert, sont aisément crevassées. Seul, était-il plus seul qu'autrefois à l'hôpital? Oui, car l'ami invisible, celui qui tant de fois l'avait consolé, étendant la main sur les révoltes de son cœur, le divin compagnon de route auquel il disait tout, Jésus, avait disparu. André se raidissait. Vivre sans joie, oui, s'il le fallait, il saurait vivre sans joie, mais vivre sans cette présente sainte. « Reviens, mon Dieu, » murmura-t-il, inclinant la tête. « De toi, je ne saurais me passer. Reviens !» Alors le désir lui vint, après s'être soumis, de comprendre, et il se promena longtemps à cette lisière de prairie, réfléchissant, tandis que le petit Bovis, assis sur ses talons au beau milieu du pré vert, son fouet de ficelle en travers des genoux faisait dans sa tête songeuse toutes sortes de suppositions. Tandis que les vaches au palan, blanches et brunes et fauves, traînaient des ombres violettes sur l'herbe rase que semaient comme des gouttes laiteuses les parnassées, tandis qu'allait son train le petit carillon tintant des sonnettes qui est si mélancolique en automne dans les prés. Dans les pâtures, en été, sous les ramées qui l'enserrent, il sonne plein et joyeux. Mais les grands clos du Regain sont trop larges, trop ouverts, et le petit carillon d'un bout à l'autre des barrières se répond à lui-même, faible et menu, et tremble autant comme un cœur de petite voix vieillotte qui aurait trop chanté. Juliette venait, bien contre son gré, de rejoindre le cercle bruyant du pique-nique. Deux minutes plus tard, Antoine Jacquier, dont on avait remarqué l'absence, reparaissait à son tour, et sa belle-mère ne manqua pas d'en tirer des conclusions désagréables. « Décidément, pensa-t-elle, il est temps que cette fillette aille un peu courir le monde. » On s'était éparpillé sous les arbres pour chercher ses retraites, désirables en septembre, où l'on a la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Madame Beausire dormait dans la plus gracieuse attitude du monde, enveloppée d'un grand châle rouge. L'excellent cousin Daniel, fermant les yeux à demi, essayait de se reporter à cet âge où la pierre qu'on choisit pour oreiller n'a pas d'angle, et il se demandait, sans vouloir critiquer l'ère présente, au nom, si la mousse n'était pas plus épaisse de son jeune temps. Dans un petit vallon creusé et capitonné comme un berceau, long tout juste comme son long corps, et qu'il avait préalablement doublé de toute une provision de journaux, car le papier, disent les sages, mauvais conducteur du calorique, est la substance sur laquelle il faut s'asseoir hygiéniquement dans les parties de campagne. Le cousin Ananias reposait ses lassitudes physiques et morales. Il dormait même, selon toute apparence, et l'on aurait pu s'en assurer, à de grands risques, en lui enlevant le chapeau qui couvrait la moitié de son visage. Quant à M. Vitalis Dubois, il errait bucoliquement, l'air songeur, cherchant des fraises tardives. Le retour de Juliette fit pousser une exclamation à ses deux sœurs, Bricotte et Mickey, enlacées fort intimement et qui promenaient leurs confidences sous les arbres parmi les gros blocs roulés dans la mousse. « Enfin, Juliette, où donc avais-tu passé ?» exclama Bricotte, mais à demi-voix, désireuse de permettre à sa sœur une rentrée incognito. « Si maman n'était pas, tu sais, un chaperon absolument fin de siècle, il y a longtemps qu'elle se serait mise à ta recherche. D'où viens-tu, petite ?»« Je suis allée là-bas, pleurer un peu, » fit Juliette dont les lèvres tremblèrent. « Pleurer ? Pourquoi, mignonne ? » s'écrièrent-elles ensemble, lui passant chacune un bras autour du cou. « Le fait est que tu as les yeux rouges. Ne regarde pas ces gens, ils le remarqueraient. » « Viens avec nous jusqu'à ce grand sapin à gauche. Il y a un bassin, un vieux bassin pour les vaches, de l'eau pas trop propre, mais enfin, tu y tremperas ton mouchoir. »« Mais pourquoi pleurer aujourd'hui, voyons ?» fit Bricotte. « Il m'est venu des idées. »« Oui, elles te sont venues dans cette enveloppe que tu cachais. » « Oh !» s'écria la belle Valentine avec enthousiasme, « ce que c'est amusant de vivre quand il se passe des histoires d'amour. »« Je devine, Juliette chérie, que Mickey se déniche à son tour un adorateur sérieux et nous serons mariés toutes les quatre le même jour. »« Toutes les quatre, voyez-vous ce cortège parmi les populations paisibles ?»« Oui, tante Miche, toi qui aimes le positif, je n'ai qu'un mot à dire pour devenir propriétaire. » Cour, jardin, poulailler, avec un mari au milieu. Il ne me tente guère, le mari, fit-elle, s'arrêtant tout à coup et mordant sa lèvre rouge. Oh là là, quelle silhouette! Et il me cueille des fraises. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, cria Juliette, obligeant sa sœur à lui faire face et posant les deux mains sur ses épaules. Parfaitement, ma chère, la poule fidèle n'a qu'à prendre le deuil. « Il y avait une déclaration dans mon courrier. Maman ne se trompait pas. Pour ces choses-là, maman est infaillible. Je comprends que ça te paraisse incroyable, mais je n'ai qu'à me baisser pour ramasser la touffette. Vois ce qu'il m'écrit au crayon. Tombons sur l'herbe comme dans les romans. » Elle tomba sur l'herbe, sa robe arrondie et bouffante autour d'elle. Leurs trois jupes aux plis étalés, blanc crémeux, bleu pâle et gris joli, faisaient une charmante tache de couleur sur le vert éteint du gazon et les trois visages jeunes, aux bouches fraîches, se penchèrent ensemble sur un document très froissé. « Voici 30 ans que je fais des expériences, il en manque une à la série, celle du mariage. J'avais résolu de ne pas la faire, mais on change d'idée. Vous êtes très bien, mademoiselle, je n'hésite pas à le dire. Comme femme mariée, vous seriez plus sérieuse, ce qui m'irait aussi. » J'ai du bien, ayant été économe toute ma vie. Vous seriez plus au large qu'à présent. Ceci est très sérieux. Je le signe au crayon, n'ayant pas d'encre. Ce ne serait pas valable en justice, mais si vous voulez bien m'en recoser un mot, vous verrez que c'est valable. Je m'appelle Vitalis Dubois de la Touffette. Il a eu un coup de soleil, pouffa Mickey. N'abuse pas de son état, Valentine. « Le soleil de mes yeux !» fit Valentine, belle comme un astre et rayonnante de malicieux triomphe. « Il m'est arrivé de le faire exprès, mais cette fois-ci, non. Parole d'honneur, c'est sans préméditation. Maintenant, tante Miche, conseille-moi. »« Fais-lui le moins de peine possible, » dit Juliette. « Ne le vexe pas, c'est toujours ennuyeux d'être refusé. » « Ah, mais !» fit Valentine, rougissant tout à coup comme la plus belle aurore. « C'est que j'ai presque envie d'accepter. Ça m'amuserait d'être maîtresse de la Touffette. Il m'est venu 50 idées depuis une demi-heure. Nous agrandirions la maison, nous prendrions des pensionnaires en été. J'aurai maman en visite chez moi tout le temps, et toi aussi, Lulette. Il ferait mes 36 volontés, car il serait très amoureux. Il ferait mes 36 volontés, car il serait très amoureux. Il est très égoïste et bizarre, dit Juliette consternée, et je crois qu'il serait capable de devenir brutal. Je ne l'aime pas, c'est un vilain sire. Tu serais affreusement malheureuse. Tu es folle, et c'est très mal aussi, car sans la Touffette, tu ne songerais pas un instant à l'accepter. Ce serait te vendre. Je ne prétends pas, dit Bricotte avec une moue, que comme mari, je l'adorerais. Mais il ne s'y attend pas à son âge. Il se contentera de peu. Tu crois cela ? S'écria Juliette. Tu verras, il te tiendra ainsi, fit-elle, courbant ses doigts minces et les enfonçant comme des serres dans le bras rond de sa sœur. Tes 36 volontés, c'est lui qui te fera faire les siennes, et puis, quand tu en auras assez, tu te sauveras un beau soir et tu reviendras chez maman. Et alors, tu ne seras ni veuve, ni femme, ni fille, et tu passeras le reste de tes jours à te lamenter. Quant à cela, fit Bricotte rêveuse, il y aurait toujours le divorce. Qu'avez-vous à rire, vous deux ? Demanda-t-elle avec une pointe d'humeur. Tâchez donc d'être sérieuse quand il s'agit de choses sérieuses. Ah, tu es bien de la famille Beausire, toi, fit Mickey, lui ébouriffant la tête à deux mains. Dans notre heureuse famille, on est plein de ressources, et quand on accepte une demande en mariage, c'est en se disant qu'après tout, il y aurait toujours le divorce. Assez de plaisanterie, vous m'ennuyez presque. Non, non, vous êtes de bonnes petites et je vous aime bien. Mais toi, Mickey, ne viens pas me prêcher. Ça te va comme un rabat à un moineau. Si j'écoutais quelqu'un, ce serait Juliette. Écoute-moi donc et réfléchis, dit sa sœur affectueusement. Promets-moi de réfléchir. Surtout, ne lui en recose pas un mot, comme il dit, avant d'avoir bien tout pesé. Non, vois-tu, Bricotte, s'écria-t-elle, ne cachant plus son extrême contrariété. Je n'aurai de repos que lorsque nous serons rentrés à la maison. Tu es si étourdie que pour le plaisir de rire seulement ou pour faire sensation, tu lui signerais l'engagement de te marier demain. Bah, nous n'avons pas d'encre, fit Bricotte qui s'étira, puis d'un bond se remit sur ses pieds. C'est bien ça, chuchota Mickey, se rapprochant de Juliette. Elle grille d'envie de dire oui pour la drôlerie de l'affaire. Tu feras bien de la surveiller de près si tu tiens décidément à n'avoir pas M. Vitalis pour beau-frère. Oh, Mickey, si tu voulais m'aider, soupira Juliette. Mais tu es aussi folle que Bricotte. Et si j'en parle à maman, elle battra des mains, elle lancera des allusions tout le temps et elle empirera les choses. Le cousin Ananias dormait décidément, car de longues traînes de lierre descendirent sur lui, s'enroulèrent à son chapeau, s'accrochèrent à ses boutons, l'enguirlandèrent comme un faune sans qu'il s'en aperçût. Le bout carré de ses souliers dressés vers le ciel s'orna d'un piquet de houx, et les mains discrètement frôleuses, occupées à sa décoration, essayèrent de lui suspendre au gilet une chaîne bruissante de pives enfilées à la hâte. Mais cette dernière touche était de trop, le cousin Ananias se réveilla. Alors, il se dressa dans ses draperies vertes et un éclat de rire immense salua son étonnement courroucé. Il se piqua les doigts à la branche de houx qui hérissait sa semelle quand il voulut l'en arracher et il trouva une autre branche dans son gousset en compagnie de sa montre. Le chapelet de pives tomba sur ses pieds, les festons du chapeau lui chatouillèrent l'oreille. Il se fâcha et ce fut très désagréable. L'homme des bois, criait Madame Beausire, demi-assise, demi-couchée, les cheveux en désordre et son châle rouge pittoresquement jeté sur l'herbe, derrière elle, comme un fond arrangé. Oh, le mauvais caractère, il se fâche. Cousin Ananias, vous qui êtes si doux quand vous le voulez. Ces petites sont des sottes et ces bêtes comme une salade ce qu'elles ont fait là, mais de mauvaises intentions, il n'y en a pas l'ombre. Attendez que je vous ôte ces guirlandes. Le fait est, pauvre cousin, que vous n'êtes plus assez jeune pour comprendre la plaisanterie. Non, non, vous ne les désiriterez pas pour si peu de choses. Vraiment, disaient Madame Jacquier et Antoine, le genre de ces jeunes personnes est détestable. Elles ne respectent rien, elles sont affreusement bruyantes et leur maman renchérit encore. Antoine, Elle lui posa sa main sur le bras. « Laisse-moi t'avertir sérieusement. »« M'avertir de quoi ? » fit-il avec brusque rire, retirant son bras. « Du danger que tu cours, sans t'en douter. Juliette Beausire semble plus posée que ses sœurs, mais c'est le même sang, vois-tu. C'est du sang de Bacchante, mon fils, » dit Madame Jacquet avec emphase, ayant préparé ce mot qu'elle trouvait très bien. Antoine rougit d'indignation, puis sourit dédaigneusement. « Ne devenons pas mythologiques, » fit-il, « et permettez-moi de vous dire que j'ai pour Mademoiselle Juliette Beausire le plus grand respect, la plus grande admiration. » « Antoine, Antoine !» gémit sa belle-mère, « arrête-toi, je t'en prie, tu vas plus loin que ta pensée. » Ses yeux bleus clairs, larmoyants, se levèrent en haut vers les branches, et sur sa tête, les grêtes de jais frémit. « Plus loin que ma pensée, vous la dirai-je, ma pensée ?»« Non, non, ne me la dis pas, tu t'égares absolument !» Elles t'enguirlandes aussi, ces filles artificieuses, mais il est temps pour toi de reculer. Tu es d'une imprudence. Heureusement, ces choses-là ne compromettent pas un jeune homme, mais cette absence de tout à l'heure, chacun l'a remarqué, et je t'assure bien qu'on a fait des commentaires. C'est absurde, car enfin, malgré ta grande admiration, elle appuya, pour Mademoiselle Juliette, je suppose que tu n'as pas... « Ne supposez rien, vous vous tromperiez, » fit-il, et il se leva vivement. « Je n'ai plus qu'un désir. »« Antoine, » supplia-t-elle, « réfléchis, ne sois pas impétueux. Je sais trop bien que je n'ai sur toi aucune influence, malgré tant d'années d'affection. Mais si ton père t'entendait... » Il me dirait, « La ligne droite, mon enfant, la ligne droite, j'en ai trop dévié. »